Malheureusement, à 16 ans, il avait fallu dire adieu à toute leçon. Sa mère, voyant ses regrets, avait bien proposé de lui faire suivre un cours particulier, mais Louis Offrand n'y avait pas consenti. « Nous n'avons pas besoin d'un savant qui regardera les étoiles quand il faudra balayer l'écurie », avait-il dit. Et, comme à l'ordinaire, sa femme s'était soumise sans contester davantage. Pendant ces 3 dernières années, Luc n'avait donc rien appris, du moins dans les livres, mais il n'avait rien oublié non plus. Il soignait son petit bagage de science, le passait en revue et ne permettait pas à son intelligence de se rouiller. Du reste, il y a bien des façons d'apprendre. Par-ci, par-là, dans les journaux qu'il achetait en ville, dans les conversations qu'il entendait, il picorait des notions nouvelles sur lesquelles il réfléchissait longuement pour les mettre d'accord avec les anciennes. « Tout cela me sera utile un jour, » pensait-il. Mais ce jour tardait à venir. Luc avait peu de compagnons et point d'amis intimes. Leur maison était fort isolée, ses occupations, quoique insignifiantes, l'y retenaient, et d'ailleurs, il se sentait dans une position d'infériorité humiliante vis-à-vis des garçons de son âge, tous pourvus d'un métier ou en train de l'être. Il passait pour sauvage, tandis qu'il n'était que fier et souvent triste. À 19 ans, Luc Offrand était un garçon intelligent et rempli d'une ambition qui battait des ailes comme un fougueux oiseau souvent meurtri mais non découragé. Claire admirait beaucoup son cousin. Elle le tenait pour un puits de science. Il se moquait souvent de son orthographe fantaisiste, mais elle ne s'en fâchait pas, bien sûre de reprendre son avantage sur un autre terrain, car elle était la plus raisonnable des deux. Luc revenait de la citerne, chargé de 2 grands seaux, quand il passa devant la fenêtre où travaillait Claire, il s'arrêta un instant. Cette fenêtre était digne de servir de cadre au joli visage de la jeune fille. C'était un échantillon fort bien conservé de l'art naïf qui, autrefois, décorait les maisons rustiques de nos montagnes. Le long des montants et de la travée couraient des rinceaux gracieux terminés par des rosaces. Au centre, une plaque en relief portait ces mots « Que la bénédiction de Dieu soit sur cette maison et sur tous ceux qui lui entreront ». En été, des guirlandes de capucines cachaient en partie cette pieuse devise. Mais aujourd'hui, elle apparaissait nettement sur la pierre grise, tachetée ci et là d'un lichen couleur de rouille. Luc regardait sa cousine. Elle était debout, le pied appuyé sur la pédale de sa roue, les 2 mains posées sur le tour. C'étaient des mains laborieuses, souples comme toutes les mains d'horlogère, mais un peu rougies et gâtées par le maniement incessant des outils. Luc pensait à des doigts minces et blancs comme le lait, à des ongles nacrés taillés en pointe, à une petite bague dont le chaton de turquoise était à peine plus azuré que les veines fines du poignet qu'il avait entrevu. Claire leva les yeux et cette vision s'enfuit, mais elle revint et obséda Luc tout le jour. La rencontre du matin fut pour le jeune homme le grain de sable qui emporte un des plateaux de la balance. « Pourquoi ne monterai-je pas ?» se demanda-t-il. Toutes ses ambitions, toute sa jeune ardeur et ses désirs foulés se soulevaient à la fois comme une vague puissante, emportant dans leur houle les incertitudes qui longtemps leur avaient servi de digue. Tout le reste du jour, Luc roula des projets dans sa tête. Pendant l'après-midi, n'ayant rien de mieux à faire, il s'en alla errer sous les sapins avec Lyon, qui, lui aussi, était ambitieux à sa manière. Il rêvait d'attraper un moineau et se livrait dans ce but aux gambades les plus extraordinaires. Luc, s'étant assis sous un arbre, songea longuement. Une haie de difficultés semblait l'environner. « Bah, pensa-t-il, la première chose est de faire un trou dans la haie. Un chemin se montrera bien derrière. » Et pour faire ce trou au plus vite, il résolut de parler le soir même à son père. Il choisit mal son heure. Du reste, à n'importe quel moment, un conflit était inévitable entre ces 2 volontés opposées. Louis Offrand était assis dans la cuisine, sa chienne Finette entre les jambes, quand Luc revint de l'étable où il avait fait rentrer leur vache, les nuits étant encore trop fraîches pour qu'on la laissât dehors. Le père de Luc était un homme sec et robuste, de haute taille, portant fermement sa moustache gris de fer qui lui remontait en croc dans les joues. Un pli se creusait profondément entre ses sourcils, au-dessus de son nez busqué. Ce pli donnait à la physionomie quelque chose d'impérieux et de violent. Louis Offrant soupait d'assez mauvaise humeur. Il avait eu des ennuis pendant la journée. On lui avait fait un affront, comme il disait. Un de ses camarades en rôderie avait refusé d'aller faire avec lui une partie de quilles dans un cabaret du voisinage. Mortellement offensé, il s'était mis à boire tout seul dans le sudit cabaret, ce qui n'avait pas contribué à le rasséréner. Cependant, Louis Offrant n'était pas ce qu'on appelle chez nous un noceur. Jamais il n'était rentré chez lui tout à fait ivre, mais ses habitudes de paresse le conduisaient tout doucement à d'autres vices. Quand Luc rentra, sa mère lui jeta un regard suppliant, comme pour dire « Prends garde, le père est encore moins endurant qu'à l'ordinaire. » Son souper, assez maigre, se composait de pain et de fromage qu'il taillait sur le pouce avec son couteau de poche. « Fais voir un peu moins de tapage avec tes diables de sabots » grommela-t-il en jetant à son fils, de dessous ses épais sourcils, un regard fort courroucé. Luc ne répondit pas et s'assit près du foyer. Lyon vint se coucher en rond à côté de lui sur les dalles. La mère, fort anxieuse, aurait bien voulu quitter la cuisine, sentant que sa présence irritait son mari, mais elle n'osait laisser les deux hommes en tête à tête. Il y eut un long silence. La petite flamme du foyer semblait plus rouge dans l'ombre qui déjà envahissait les recoins. « Père, » dit enfin Luc, le coude appuyé sur son genou, « j'ai rencontré un de vos patrons ce matin. »« Patron ? Je n'ai pas de patron, mille bombes ! Je suis un homme libre, moi » répliqua-t-il avec cette susceptibilité farouche de certains individus qui, sentant qu'ils se dégradent, exigent de chacun un choix de termes et des égards extraordinaires. « Un fabricant pour qui vous travaillez, enfin !» reprit Luc. Peut-être, sans s'en apercevoir, appuya-t-il légèrement sur ce mot « travailler ». Ce fut une nouvelle offense. « Je travaille quand ça me plaît, entends-tu, polisson ? Ah, par ma foi, tu as bien profité de toutes tes écoles si tu n'as pas vu dans le catéchisme le respect qu'on doit à ses parents. » « Il n'a pas voulu te manquer, Louis !» interposa doucement sa femme. « C'est bon, toi, attends qu'on te parle. » Luc sentait ses joues brûler, mais il se contint. Il eût beaucoup mieux fait de laisser là un entretien si mal commencé et de passer dans la chambre où Claire écoutait avec inquiétude la voix irritée de son parrain. Mais il s'était promis de faire ce soir-là son trou dans la haie et il alla de l'avant. « Ce fabricant était M. Moller, » reprit-il au bout d'un moment. « Je ne l'avais jamais vu. » Toutes les fois que je suis allé au comptoir, je n'ai trouvé que le visiteur ou le caissier. Oh, il se tient dans son cabinet, le vieux Moller. C'est de là qu'il tyrannise les ouvriers. Il est d'une exigence, un marchand d'esclaves. Si on ne lui apporte pas son ouvrage recta sur le picot de l'heure, il vous fait des scènes. Pendant la dernière saison de chasse, je lui avais gardé un carton, une petite quinzaine de trop, il m'a monté un boucan. Tu aurais dû entendre, disant que je lui avais retardé un envoi, fait manquer une commande, je ne sais quoi. Je lui ai répondu, « Monsieur, les bécasses avant tout. Croyez-vous qu'elles vont retarder leur passage pour me laisser finir vos échappements ?»« Les bécasses avant tout, » reprit-il avec cette intime satisfaction que certaines gens trouvent, on ne sait pourquoi, à répéter une sottise. Il jura après moi tant qu'il voulut, ça ne l'empêcha pas, deux jours après, de me renvoyer 6 cartons. C'est que, pour les levées visibles, il n'y en a pas 2 comme moi dans le district. Monsieur Moller m'a dit à peu près la même chose ce matin, et ça m'a donné une idée, fit Luc d'un ton aussi conciliant que possible. Est-ce que je ne pourrais pas avoir hérité de votre talent, père ? Louis Offrant partit d'un éclat de rire dédaigneux. « Regarde tes mains, » dit-il, « c'est bon à balayer l'écurie. » Luc rougit. « Elles n'ont jamais rien fait de mieux, » dit-il, « mais elles pourraient essayer. Voulez-vous me montrer à travailler, père ? Je serai un apprenti de bonne volonté. »« Quelle mouche t'a piqué ?» dit son père, trop surpris de cette demande, pour songer de suite en s'en fâcher. « J'ai 19 ans, tous les garçons de mon âge ont un état, il est temps que je gagne ma vie. » « Ouais, mon garçon, c'est là ton petit plan. Et quand le bon papa t'aura montré tout ce qu'il sait, tu donneras un coup de pied à la vieille maison et on ne te reverra plus. Ha ha, tu aimerais bien ça, hein ?
Une sorte d'irritation trouble lui montait à la tête. La demande de Luc, quoique juste et raisonnable, lui semblait une rébellion. Il était fort commode de garder à la maison ce grand garçon vigoureux. Avec lui, les travaux de la petite ferme n'étaient jamais en souffrance et, plus d'une fois, Louis Offrand s'était félicité d'avoir si admirablement dirigé l'éducation de son fils.
« Ce n'est pas lui qui ira courir le monde, » disait-il à ses amis avec sa vantardise facile. « J'ai su lui mettre un fil à la patte. » Maintenant, si le fil se cassait et que Luc s'envola, que deviendraient les chers loisirs de son père ? Les deux femmes ne pouvaient travailler au champ. À leur établi, elles gagnaient de quoi faire tourner le ménage. Traire la vache, nettoyer l'écurie, fendre le bois, soigner le jardin, aller en ville deux ou trois fois par semaine, toute cette besogne retomberait sur lui seul. Adieu les journées passées dans les bois, les matinées de morillage, les expéditions de chasse, les traques aux renards, les foires aux bestiaux, auxquelles il s'intéressait d'une façon toute particulière, car on y passe son temps fort agréablement, les mains dans les poches, à ne rien faire, tout en ayant l'air très occupé. Adieu la flânerie, il faudrait se mettre à la tâche.
« Je n'ai pas parlé de quitter la maison, père, » dit Luc assez calmement, « mais seulement d'apprendre un état. Je n'ai pas assez de besogne. Prenez-moi comme apprenti. Je ferai par-dessus tout l'ouvrage des champs. »
« Oui, oui, comptez-y, » murmura son père. « Et tu crois que je vais m'en gamacher d'un apprenti pour n'avoir plus une minute de liberté ? J'en ai refusé au moins 50. Ce n'est pas avec toi que je commencerai. » « Va, va, tiens-toi tranquille, mon garçon. Tu n'as pas la vie rude, pardi. Bien nourri, bien habillé, qu'est-ce qui te manque ? Fiche-moi la paix, je te dis, et qu'on n'en parle plus. »
Il posa ses deux coudes sur la table et se mit à bourrer sa pipe, ayant fini de souper.
« Non, dit Luc, ça ne peut plus aller ainsi. »
D'un bond, Louis Offrand se mit droit sur ses jambes.
« Tu dis ?»
Son visage était devenu pourpre, seule la ride creusée entre ses sourcils restait blanche, comme une effrayante cicatrice.
« Mère, je t'en prie, va-t'en dans la chambre, » dit Luc.
La pauvre femme, pâle et les mains étendues, s'était avancée vers son mari.
« Je lui apprendrai, » cria celui-ci, « je lui apprendrai les devoirs des enfants. »
« Les parents en ont aussi des devoirs, » répliqua Luc. La lourde main de son père s'abattit sur lui. Il chancela. Mais, en cet instant, Lyon poussa un grondement formidable et montra les dents. Luc eut tout juste le temps de le retenir, il allait sauter sur Louis Offrand et le saisir à la gorge.
« Ah, tu t'en mêles, toi !» fit celui-ci, devenu livide.
Fou de colère, il saisit son couteau posé sur la table et en frappa le chien qui tomba. Au hurlement de douleur qu'avait poussé la pauvre bête, succéda un silence de mort. Luc ne prononça pas une parole. Sa mère, affaissée sur un escabeau, cachait son visage dans ses mains. Louis Offrand, complètement dégrisé et ne pouvant supporter la vue du sang vermeil qui s'échappait sur les dalles, prit son chapeau et sortit lentement. Il avait aimé le chien autrefois, mais comme Lyon s'était attaché particulièrement à Luc, lui-même s'en était peu à peu désaffectionné. Cependant, il était fier de cette bête magnifique que chacun admirait, il vantait son intelligence. Maintenant, il se sentait honteux, comme il ne l'eût pas été peut-être, d'avoir frappé un homme de son couteau. Blesser un chien, c'est comme tuer une hirondelle, cela révolte tous les instincts du vrai chasseur, et le père de Luc était chasseur jusqu'au fond de l'âme. Il ne rentra pas à la maison cette nuit-là, s'imaginant avoir tué Lyon. Il feignit de s'être attardé dans les bois et alla demander l'hospitalité à l'un de ses amis qui habitait à une assez grande distance. « Quand je retournerai demain matin, pensa-t-il, ils auront déjà encrotté la pauvre bête et on n'en parlera plus. Je connais Luc, il ne me fera pas de reproches, il est trop fier pour cela. Et puis, c'est sa faute, après tout. » Cependant, Lyon n'était pas aussi malade que Louis Offrand le figurait. La blessure était à l'épaule et pouvait n'être pas mortelle. Aussitôt son père sorti, Luc s'était agenouillé à côté du chien.
« Mon beau lion, mon pauvre lion,
murmura-t-il en mettant son doigt dans l'entaille profonde qu'avait faite le couteau. « Mère, vite, de l'amadou, de la charpie, quelque chose !» Madeleine Offrant se leva, mais la vue du sang la fit pâlir. Elle eut comme un vertige, le carrelage lui parut s'enfoncer sous ses pieds. Elle dut se retenir au chambranle de la porte. « Claire !» appela le jeune homme en se levant d'un bond pour soutenir sa mère. La jeune fille, qui avait passé tout ce temps dans la plus vive anxiété, n'osant intervenir de peur d'irriter davantage son parrain, se hâta de répondre à la voix de Luc. « Laisse-moi, » dit Madeleine en la repoussant doucement. « Je me remettrai bien toute seule. Occupe-toi du chien avec Luc. » Un bandage fut aussitôt ajusté par des mains pleines de sollicitude, quoique bien inexpérimentées. Quand le pansement fut achevé et que Lyon se trouva étendu sur un morceau de tapis devant le foyer, il souleva faiblement sa grosse tête et, fixant sur son maître ses yeux intelligents et tristes, il essaya de lui lécher la main. Jusqu'alors, Luc s'était fait violence pour réprimer son émotion, mais il n'y put tenir davantage. Cachant sa figure dans ses mains, il fit entendre un long sanglot. « Il est tard, » dit-il en s'efforçant de se remettre. « Allez vous coucher. Claire prend soin de maman. Moi, je resterai ici à veiller. » Cette nuit fut longue et angoissante. Luc n'y pensa jamais dès lors sans un serrement de cœur. Trois fois, il crut que le chien ne respirait plus. Ses prunelles devenaient vitreuses, son long poil fauve se soulevait à peine. Luc, agenouillé à côté de lui, l'oreille appuyée sur son flanc, cherchait à surprendre le moindre bruit de respiration. Il ranima le feu pour échauffer les flanelles dont il le couvrit. Il essaya de lui faire prendre quelques gouttes de lait tiède. Le pauvre animal, épuisé par l'effort, cherchait du regard son maître et poussait un petit gémissement de cet air résigné qu'ont toutes les bêtes malades. Au bout de quelques heures, il parut à Luc que la respiration, quoique très faible, devenait moins intermittente. Il reprit un peu d'espoir. Se relevant alors, car il était demeuré tout ce temps à genoux sur le dur carrelage, cherchant à réchauffer les membres raidis du chien, il s'assit non loin du foyer, de façon à ce que Lyon pût le suivre des yeux sans avoir à tourner la tête. À 2 heures du matin, la porte de la chambre s'entr'ouvrit doucement et le doux visage triste de Madeleine Offrant sortit à demi de l'ombre. « Comment cela va-t-il » demanda-t-elle à voix basse. « Mieux, je crois. Laisse-moi te remplacer, veux-tu » Luc secoua la tête. « Va dormir, maman, » dit-il. « Moi, je ne le pourrai pas. » Il avait la fièvre. Son visage, pâle tout à l'heure, était brûlant comme ses mains. 1000 pensées irritées lui battaient les tempes. Il se reprochait d'avoir été imprudent, de n'avoir pas su mettre un frein à sa langue. Mais le souvenir des torts de son père lui faisait trop oublier les siens. « C'est assez ! C'est assez !» s'écriait-il avec cette fougueuse amertume des jeunes cœurs qui s'imaginent toujours que nulle souffrance n'est comparable à la leur, que nulle patience n'a été aussi longue. « J'en ai trop supporté !» « Guéris-toi seulement, Lyon, nous partirons ensemble. Et ma mère ?» Ses pensées devinrent plus douces. Sa mère, depuis 25 ans, sans se plaindre, elle portait son fardeau, endurant tout, espérant toujours, comme la charité, cherchant sans cesse à répandre l'huile de la conciliation, à procurer la paix. Luc se leva, il s'approcha de la porte où, tout à l'heure, le pâle visage de sa mère s'était montré. Il s'assit sur le seuil, comme il le faisait autrefois quand il était un petit enfant, et appuya sa tête contre la boiserie. Toute sa révolte était tombée, les regrets seuls restaient. « Oh, mère, » murmura-t-il, « pardon, je ne ferai plus rien qui puisse t'affliger, va. Est-ce que moi, qui me crois un homme fort, je ne pourrais supporter ce qu'une faible femme endure ? Que mon avenir prenne soin de ceux qui le regardent. Je ne me lancerai pas dans le monde comme un révolté. » Il revint auprès de Lyon, car le fidèle animal tournait faiblement la tête pour le chercher du regard. On eût dit qu'il buvait la vie dans les yeux de son maître. Luc se pencha pour le caresser, lui humecta la langue d'un peu de lait et reprit sa place auprès du foyer. Renoncer à tous ses projets lui semblait dur, mais si le devoir était là. Cette scène, qu'un seul mot avait soulevée, n'était-elle pas un présage et un avertissement ? Je suis dans mon droit, pensait Luc. Et le flot de sa colère montait. Mais il y a autre chose que le droit, il y a le devoir, murmurait cette voix que l'on entend dans le silence. Au matin, Luc se sentit épuisé. Il avait lutté toute la nuit contre lui-même et la victoire était encore indécise. De très bonne heure, sa mère vint dans la cuisine et embrassa son fils tendrement. « Tu devrais aller traire, dit-elle, et te coucher après. Tu es tout pâle. Ne t'inquiète pas du chien, j'en prendrai soin. Il se tirera d'affaire, tu verras. » Luc obéit. Après avoir terminé sa besogne à l'étable, il monta dans sa petite chambre qui se trouvait à l'étage près de la grange. Le soleil pénétrait déjà à flots radieux, mais le jeune homme se tourna contre la muraille et s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla, sa mère était près de lui, passant dans les cheveux de son fils sa main légère, faite pour apaiser et caresser. « Écoute, dit-elle en se penchant vers lui, le père vient de rentrer, il vaut mieux que tu le saches avant de descendre. Il a l'air tout radouci. Aujourd'hui, si tu lui parles de tes projets, il t'écoutera mieux. » « Mes projets, j'y ai renoncé, presque, » répondit Luc. Une expression perplexe passa de nouveau sur les traits que le sommeil avait détendus. Sa mère secoua la tête. « Non, non, dit-elle, je n'ai pensé qu'à cela toute la nuit. Il faut que tu quittes la maison. Mais ne va pas trop loin, » s'écria-t-elle, son courage l'abandonnant tout à coup, « et reviens souvent. « N'est-ce pas, mon fils, mon seul fils, mon Luc ?» Il sentit une larme tomber brûlante sur son front. « Chère maman, dit-il en l'entourant de son bras, je reste avec toi. » Mais elle se dégagea et secoua de nouveau la tête. « Tous les oiseaux quittent le nid, » reprit-elle en tâchant de sourire. « Va, mon fils, nous t'avons retenu trop longtemps. » Je croyais faire pour le mieux, tu sais, et ton père aussi, car il t'aime bien, quoiqu'il soit un peu brusque. Vous vous séparerez en paix, n'est-ce pas? Dieu ne te bénirait pas sans cela, mon Luc. Je ferai tout ce que tu voudras, mère, répondit-il à voix basse. Quand il descendit, son père n'était plus dans la cuisine. La vue du chien toujours couché devant le foyer était insupportable à Louis Offrant. Il s'était réfugié dans la chambre où Claire faisait bourdonner sa roue et s'était aussitôt mis à l'établi pour se donner une contenance, peut-être aussi dans le désir de faire amende honorable d'une façon quelconque. Il travaillait avec assiduité depuis une demi-heure quand Luc entra. « Bonjour, père, » dit le jeune homme en s'avançant résolument vers l'établi. « Bonjour, garçon. » Louis Offrant était fort étonné. Il s'attendait, sinon à des reproches, du moins à un morne silence et à une longue rancune. Cependant, il continua à pousser sa lime sans rien ajouter. « Père, » reprit Luc avec un léger effort et en cherchant à affermir sa voix, « hier au soir, j'ai eu tort. Je vous ai manqué de respect. Voulez-vous me pardonner ?» Pour le coup, Louis Offrant laissa tomber sa lime. Une rougeur soudaine montait à son front bronzé, peu coutumier de semblables signes d'émotion. « Écoute, » dit-il en se tournant vers son fils pour lui tendre sa large main. « Ce n'est pas l'habitude que les parents reconnaissent leur tort devant leurs enfants. Sans cela, tu m'entends ?» Luc prit la main de son père et s'en alla sans rien ajouter. « Maintenant, mon cher garçon, » lui dit sa mère lorsqu'il rentra dans la cuisine, « laisse-moi faire le reste. » Finette, la jolie chienne brune tachetée de blanc, venait de présenter à Lyon ses condoléances. D'un petit jappement discret, elle lui avait demandé de ses nouvelles, puis avait fait le tour du blessé, le flairant curieusement, et finalement s'était établie à côté de lui pour lui tenir compagnie. Mais Lyon n'était pas en état de reconnaître ses avances avec sa politesse ordinaire. Un léger mouvement de sa queue touffue était tout ce que sa faiblesse lui permettait, et il réservait cette salutation pour son maître. Cependant, comme il n'avait pas perdu beaucoup de sang, ayant été pansé très vite, Luc avait bon espoir. Après le dîner, Louis Offrant prenait ordinairement une tasse de café noir, et c'était de toute la journée le moment où on le trouvait le plus abordable. Madeleine, avec cette diplomatie que l'on reproche aux femmes, mais qui n'est souvent qu'une prudence nécessaire, vint s'asseoir à côté de son mari, sur le petit banc placé devant la maison, juste au-dessous de la fenêtre aux encadrements sculptés. Il tenait sa tasse d'une main et de l'autre caressait Finette, qui avait abandonné son malade pour prendre l'air un moment. « C'est ça, » dit-il à sa femme, « une minute de causette sur le banc, rien que nous deux. C'est comme dans le temps où on se fréquentait. Te rappelles-tu ?» Il était rare qu'il lui parlât rudement. Si, la nuit précédente, il s'était emporté jusqu'à lui imposer brutalement silence, c'est que la colère l'avait rendu fou. À sa manière, il aimait cette belle Madeleine patiente et douce qui ne contredisait point et pardonnait toujours. « Elle ne m'a jamais dit non, » avouait-il dans ses moments d'expansion. « Pourquoi ne prends-tu pas de café après le dîner ? » demanda-t-il en se tournant vers elle. « Est-ce par économie ? À boire à la tasse ici tout seul, j'ai l'air d'un aval royaume qui ne corde rien à sa famille. »«
Oh, je n'y tiens pas, Louis !»
Ça te donnerait du ton. Tu as les joues blanches et tu maigris depuis quelque temps.
C'est que j'ai des soucis.
Il haussa brusquement les épaules.
Des soucis, tout le monde en a, j'en ai aussi, parbleu.
C'est Luc qui m'inquiète, poursuivit-elle résolument, mais avec un grand battement de cœur.
Oh, si tu chantes aussi cette gamme, fit-il en se levant.
Elle le retint.
« Ne t'en va pas, Louis. Ce serait inutile, vois-tu, je recommencerai. On n'arrête pas ainsi une mère qui parle pour son fils. »«
Et qu'as-tu à me dire pour ton fils, si on peut te le demander ?»«
Laissons-le partir. »«
Rien que ça, madame. Jusqu'à 19 ans, on se fait dorloter, après quoi on plante là ses vieux parents. »«
Nous ne sommes pas vieux, Louis. Quand nous le serons et que nous ne pourrons plus travailler, comment veux-tu que notre fils nous aide ?» si nous ne lui avons pas donné d'état.
Mais cette considération était trop lointaine pour toucher Louis au front dans son égoïsme.
Comme ça, ton idée est que je prenne ce garçon en apprentissage? Si je le fais, je veux bien que le cric me croque.
Non, ce n'est pas mon idée.
Et pourquoi donc, s'il te plaît? Crois-tu que je ne sois pas capable d'enseigner le plantage d'échappement aussi bien que n'importe qui? Je ne suis pas aussi patient que toi, c'est vrai. La patience, c'est l'affaire des femmes, mais je ferais tout de même d'excellents apprentis si je voulais. »
Madeleine soupira.
« Sois donc raisonnable, » fit-elle.
« Eh bien, dis ton idée alors. »
« Permets à Luc de quitter la maison et d'aller gagner sa vie ailleurs comme il pourra. Il se tirera bien d'affaires. Le travail ne lui fait pas peur, il est robuste et intelligent. »
Ta, 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 quoi encore? Voilà bien les mères qui se montent la tête à propos d'un garçon taillé exactement sur le patron des autres. Le tien a été pris dans le tas, vois-tu, ni pire ni meilleur. Ah, tu veux le lancer dans le monde. Tu ne sais pas les tentations qu'on y rencontre.
Madeleine sourit avec un peu d'amertume. Cet argument était le dernier auquel elle se fût attendue de la part de son mari.
Il y a des tentations partout, dit-elle.
« D'accord, mais je ne veux pas qu'il s'en aille, moi. »«
Pourquoi ?»«
Parce que je ne veux pas. 1000 bombes, est-ce que je suis encore le maître, oui ou non ?»«
Non, tu n'es pas le maître de gâter l'avenir de ton fils. Laisse-moi te parler, Louis, et ne me regarde pas avec ses yeux farouches. Crois-tu donc que je ne serai pas la première à souffrir de son départ ? Il nous manquera à tous. Tu crains d'avoir trop de besogne en son absence, n'est-ce pas ?» poursuivit-elle en saisissant délibérément le taureau par les cornes, si bien que Louis Offrand en demeura tout surpris.
« Mais j'ai pensé à un moyen. Écoute, un petit domestique, ça ne coûte pas cher à entretenir. Nous prendrons un de ces petits Bernois qui viennent ici pour apprendre le français et qui ne demandent pas de gage. Il fera l'ouvrage de Luc et, comme ça, tu ne seras pas plus assujetti qu'à présent. »
Il eût mieux valu sans doute pour Louis Offrand qu'il fût un peu plus assujetti, mais l'idée de sa femme eut le don de lui plaire.
« Quand tu diras tout, » fit-il avec une évidente satisfaction.